Ouais, des petites maisons, dont une qui a 10 ans et puis une autre qui a peut-être beaucoup moins, n'est-ce pas,
5.
Corentin, voilà, 5. Donc c'est la maison d'édition Dig et la maison Macaca, donc avec deux auteurs de chez Macaca. Voilà, donc nous avons Stivo.
Bonjour.
De chez Macaca, qui dessine une histoire de super-héros avec des super-pouvoirs.
Oh, c'est pas la peine de me prendre de haut comme ça.
Bon, hein, d'accord. Hein. Bon, alors voilà. Hermance, de chez Big, qui je dessine des dessins. Voilà.
Tu dessines des petits dessins.
Voilà. Corobet.
Bonjour.
Voilà, de chez Macaca, qui nous fait...
Des dessins aussi.
Oui, ah bon, du ça coup, va. Oui. Ouais. Bon. Et Corentin, qui fait des dessins chez Digo.
Comme mes confrères. Voilà.
Donc, ils vont nous dire comment ils ont monté cette édition, parce que je pense que Dig, c'est vous qui avez monté votre édition, oui. Alors que les auteurs de Macaca sont arrivés dans l'édition.
Exactement.
On n'est plus flemmards, quoi, en fait.
C'est ça, c'est un peu l'idée.
Alors effectivement, Dig est une toute petite maison d'édition. Pour donner un peu une idée de l'échelle de ce qu'on présente, on fait une à deux parutions par an seulement et on tire un volume de 1000 exemplaires de chacune de nos parutions. Donc on est vraiment sur du tout petit volume. Et on est la particularité de notre petite maison d'édition, je ne sais pas comment l'appeler, micro-édition.
Micro, oui.
La particularité, c'est qu'on est constitué en collectif. C'est-à-dire qu'on est un groupe d'une dizaine de personnes qui sommes auteurs, dessinateurs,
éditeurs.
Et donc qui gérons tout ce qui est relatif à l'édition et à la distribution. Voilà, on s'occupe de toutes ces facettes du métier. Voilà.
D'accord. Alors que vous, chez Macaca, vous vous occupez que de dessiner ou de faire le scénario.
C'est ça.
Ouais. Presque rien.
Voilà.
Oui.
Ah, oui, voilà.
Broutille, quoi. Broutille.
Ça sert à rien, ce qu'on fait, en fait.
Non mais c'est vrai que Macaca existe depuis 10 ans, ça avait commencé par un site internet qui s'appelait 30 jours de BD, dont le principe était de proposer chaque jour une planche ou plus de BD d'un auteur différent chaque jour. Et donc le site petit à petit s'est fermé et en fait voilà, ça s'est transformé en maison d'édition pour éditer des vrais livres et ils sont passés d'internet à
des vrais,
à la version papier.
Du vrai papier et
voilà.
Tout ça, voilà.
Ouais, ouais.
Alors que vous, chez Dig, vous n'êtes pas allé du tout sur internet.
Alors,
si
nous on utilise, je vais peut-être laisser Hermance répondre.
Ah. Nous à la base, bon, il faut quand même dire la petite histoire, on est tous issus d'une école qui s'appelle le Cézanne à Paris. École de bande dessinée et images narratives. Donc on s'est un peu rencontrés par affinité autour d'un projet de fanzine à la base. Et qui a évolué en projet de livre, parce qu'on n'est plus vraiment dans le format fanzine, on est plus dans le livre de BD collective. Voilà. Donc,
donc vous rencontrez des difficultés vraiment d'éditeurs par rapport à Internet, ou qui est libre, on peut mettre ce qu'on veut un peu sur n'importe quel site. Là maintenant, vous êtes en train de produire des albums et vous rencontrez tout le côté... marketing, promotion,
on
etc.
On est confronté à tout ce à quoi on n'est pas du tout formé. Et puis, c'est pas pour ces éléments-là qu'on se lance dans la BD. On se lance plutôt pour écrire et dessiner. Voilà. Mais voilà, on est confronté sur le terrain et on s'en sort comme on peut. Du coup, c'est une expérience qui est intéressante. Alors après, à notre niveau, elle reste encore relativement limitée, comme je vous disais tout à l'heure. Mais très intéressante. Voilà. Quand il s'agit d'aller faire notre propre distribution dans les librairies de France et de Navarre, on regrette de ne pas avoir plus de moyens et un vrai distributeur. Mais
ouais, d'accord.
Ah, parce que vous vous déplacez
Ouais, alors en fait, on se distribue, on utilise Internet, on fait de la vente digitale. Et comme on est un peu dispatché partout en France maintenant, on gère chacun nos libraires chez qui on va faire du dépôt.
Voilà. Et on est présent sur beaucoup de festivals, Angoulême, Saint-Malo, Blois bientôt. À Tour de Bulle, bien sûr, où on diffuse principalement, en fait. C'est là qu'on diffuse notre travail.
Et vous pouvez nous expliquer comment vous êtes retrouvé à monter votre propre maison d'édition ou d'intégrer une petite maison d'édition? Est-ce que c'est par choix, par nécessité?
Allez, Goro, à toi.
Alors, moi, j'ai pas commencé chez Macaca. J'étais d'abord chez Chomag et Ankama. Du coup, je peux pas vraiment dire que j'ai voulu intégrer Macaca, c'est juste présenté comme ça. Typiquement, c'est passé par 30 jours de BD. J'avais un projet chez eux, j'ai été repéré comme ça. Et puis, bon, ce qu'on m'offrait comme projet, c'était une BD dont vous êtes l'héros, donc c'était quand même inédit.
Mmh. Ouais.
C'est la création qui a fait que je suis allé là.
Oui, il faut dire que Macaca ont une spécialité depuis quelques années, c'est la BD dont vous êtes le héros.
Tout à fait.
Voilà. Donc, qui est un nouveau marché, on peut dire.
Il me semble que c'est les seuls à le faire sur le marché.
Moi, je me souviens.
En BD, en tout cas.
BD, parce qu'il y a 25 ans, il existait les romans.
Oui, c'est ça.
Qui existent toujours, d'ailleurs.
Ouais. Oui, mais qui ont moins de.
Voilà. Qui n'ont pas le même succès aujourd'hui.
Ouais. Donc on a renouvelé peut-être un petit peu le truc en mettant tout ça en image et en adaptant le concept en BD, ce qui a l'air de fonctionner plutôt pas mal.
Bah, il me semble. Mmh. Bah oui.
Et toi, Stivo, t'es arrivé chez Macaca.
Chez Macaca, justement, pareil, avec le site 30 jours de BD. En fait, on était plein d'auteurs à participer à ce projet collectif et du coup, c'est avec Chouki, l'éditeur, on a discuté d'éventuellement faire un projet, une BD ensemble, et ça s'est fait comme ça. Mais oui, c'est vrai que moi, mes premières BD, c'était chez un autre éditeur avant, qui était un peu plus connu. Enfin, c'était une collection de chez Paquet. Mmh. Donc Paquet, qui est quand même un petit peu plus gros que Macaca. Donc voilà, après moi Paquet, je les avais connus, c'est eux qui m'avaient contacté par mon blog, en fait. Ils étaient tombés sur mon blog et ils avaient trouvé ça sympa.
En fait, on pourrait presque dire que tous un petit peu, c'est un peu l'internet qui vous permet de vous regrouper, de vous mettre en avant, non?
J'ai l'impression que on vit moins quand même ce que nos prédécesseurs ont vécu, à faire du porte-à-porte avec le carton à dessin sous le bras. Maintenant, c'est vrai qu'on limite un peu les déplacements et c'est quand même plus simple.
On est vu par plus de monde.
Ouais.
C'est comme ça que après vous vous regroupez et que ça peut monter éventuellement une maison d'édition comme Dig ou Macaca.
Ah bah quand j'imagine pour vous, quand on fait de l'auto-édition, Internet c'est indispensable.
Alors là, contrairement à votre cas de figure, on n'a pas commencé en mettant de la BD sur Internet. C'est-à-dire qu'on a vraiment utilisé Internet plutôt comme un vecteur de vente et puis de communication. Et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, c'est-à-dire que nos BD ne sont pas accessibles en digital, on est un peu moyenâgeux par rapport à ça.
Mais par contre, attention, parce qu'on a quand même sorti notre BD Digue-2, le dernier numéro, via du crowdfunding, donc quand même on s'est bien servi de la plateforme.
On est quand même super moderne.
Pour diffuser, faire la promo et avoir plein de supports.
Oui, mais alors les albums ne sont pas disponibles du tout, on ne voit rien sur Internet.
Alors on voit des extraits sur notre site. Si, on voit des extraits, bien sûr, mais il n'y a pas la BD en numérique, en tout cas.
D'accord.
Ça viendra peut-être dans un deuxième temps.
Non, nous, elles n'existent pas en numérique non plus, les BD. On peut juste les commander en ligne.
On peut les commander en ligne. Ah si, il y a eu des versions numériques, je ne sais pas si ça a tellement fonctionné au final, parce que la valeur papier, en tout cas dans le milieu, me semble plutôt importante.
Mmh. Ouais.
Le rapport à l'objet est chouette, quoi.
Donc même les petits éditeurs ont besoin du site internet maintenant pour. On sent que le marché permet de. Internet permet quand même de présenter un peu tout ce qu'on fait et ça vous aide dans votre démarche pour promouvoir vos albums.
Exactement. Mais en fait, du coup, plus comme un outil de travail que comme un outil de diffusion à part entière. C'est-à-dire que le support reste physique, du coup, dans votre cas comme le nôtre, ce que j'en vois. Mais voilà, internet sert. D'abord à se parler. Nous, notre cas de figure est vraiment criant parce qu'on n'habite pas au même endroit. Donc du coup, Internet, c'est la manière d'échanger ses planches, de se retrouver de manière virtuelle. Donc oui, bien sûr, c'est important. Puis après, effectivement, Hermance a parlé du crowdfunding. Je ne sais pas si les auditeurs doivent connaître un petit peu, mais c'est un système participatif qui utilise effectivement Internet, qui permet de rassembler de l'argent.
Et c'est comme ça que vous avez édité votre second album.
Et donc effectivement, le dernier album a été édité de cette manière-là. On a levé les fonds qu'il nous fallait pour imprimer nos 1000 numéros. Et ça a bien marché. Et c'était un phénomène de pré-vente, en fait. C'est-à-dire que les gens achetaient en avance notre livre. Et ça a permis que ça ne coûte rien, finalement.
Et alors, quand vous dites que vous faites 1000 albums, ça veut dire qu'une fois que vous faites pas de réimpression, ou comment ça se passe? Parce que
alors, on fait des réimpressions de temps en temps, mais c'est là qu'on n'est pas une super maison d'édition qui suit bien ses stocks. C'est que là, typiquement aujourd'hui, sur les 5 numéros qu'on a sortis en 4 ans, On en a que deux à proposer voilà, au festival. Ah oui. Donc on n'est pas toujours très bons élèves.
Ouais. C'est un métier. Mais c'est vrai qu'il y a même des éditeurs maintenant qui, pour des raisons financières, se mettent à lancer des projets BD en faisant participer les lecteurs en crowdfunding. D'ailleurs, je crois que Makaka a prévu de le faire pour un album prochainement.
Il me semble que Makaka y a pensé, mais même le groupe Lombard du Pidargo, ils ont une plateforme, il me semble, de financement participatif.
Ça m'étonnerait pas.
Ouais. Ouais, du coup, ils limitent les risques pour eux. Ils n'investissent pas d'argent, en fait. C'est les lecteurs qui investissent. Voilà, comme ça, ils voient déjà à l'avance si le projet va marcher ou pas. Et...
Ouais, c'est la question que je voulais vous poser, justement. Est-ce que les petits éditeurs prennent plus de risques?
Je dirais que oui, après, ça dépend. Enfin, en tout cas, chez Makaka, je pense qu'ils essayent de limiter les risques au maximum. Ils ont fait certaines erreurs, peut-être, dans le passé, en faisant pas forcément les bons choix de scénar ou de dessin. Voilà. Et du coup, maintenant, ils sont de plus en plus sélectifs. Je sais pas, il me semble. Hein.
Je dirais surtout que le risque est plus grand dans la mesure où ils ont moins de marge. Quoi.
Ouais. Oui. Du coup, ils sortent moins de BD que des grosses maisons d'édition. Donc, voilà. Je pense que oui, il y a forcément un risque. Et pour les petits, ouais, c'est.
Et votre place donc en tant qu'auteur dans une petite maison d'édition, vous vous sentez comment? Aussi bien que dans une grande pareil?
Ah bah là, c'est Goro qui peut répondre. Hein. chez Makaka et chez Dupuis.
Du coup, moi, je trouve que c'est assez similaire quand même. Mmh. Enfin, pour Dupuis, j'étais surpris. Je pensais qu'on serait plutôt anonyme en tant qu'auteur parce que la structure est énorme. Et finalement, non, il y a vraiment beaucoup de bienveillance et les gens font attention à ce qu'on fait, à ce qu'on produit et vers où on veut aller. Donc, je vois pas trop de différence. Le côté humain, c'est pas comme ça du tout.
D'accord.
Mais les auteurs sont quand même vachement plus sympas chez Makaka.
Chez Makaka, ils sont bigrement sympas, c'est incroyable. Ouais. Surtout Stivo est très chic. Quoi.
Ouais, je suis assez d'accord.
On ne parlera pas des deux autres auteurs qui n'ont pas voulu venir.
Non, ils ne sont pas sympas. Non, il fallait qu'ils viennent de toute manière, c'est une erreur de leur part.
Et est-ce que vous changez régulièrement d'éditeur ou vous êtes plutôt fidèle?
On parle vis-à-vis de l'éditeur. Hein.
Alors, on va dire qu'on part du principe que l'éditeur n'écoute pas l'émission.
Tu fais comme tu veux, mec. Je te laisse, t'es tout seul. Allez.
Je pense qu'il y a. Là, moi, personnellement, je bosse sur une série avec Makaka, donc il y a forcément une fidélité qui s'est installée, vu que je suis sur mon quatrième album de la série, donc je reste chez le même éditeur.
Rappelons la série quand même.
Mystery. Voilà, avec Ced au scénario. Donc, je suis en train de finir le tome 3. Il y a eu un spin-off en BD, donc vous êtes le héros. Je suis pas du tout. Moi, pour la suite, j'aimerais bien justement tester chez un éditeur un peu plus gros pour voir ce que ça donne.
Et vous, est-ce que Dig, vous essayez de fidéliser les auteurs?
On essaie de fidéliser, mais par ailleurs, on n'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'on n'impose pas à nos auteurs d'être exclusivement chez nous, bien au contraire. Donc il y a plusieurs de nos auteurs qui sont par ailleurs édités dans d'autres maisons d'édition indépendantes plus grosses que la nôtre. Et on en est très contents. Voilà, donc ouais, on veut garder les gens dans l'équipe, mais on les empêche pas d'aller ailleurs. Et souvent, ils travaillent sur des projets parallèles, en fait.
Oui, de toute façon, je pense qu'en tant que dessinateur, il vous faut plusieurs projets en route pour vraiment voir où vous allez et vous projeter à long terme, je dirais.
Et puis la particularité de Dig, c'est qu'on est vraiment, on se donne un espace un peu expérimental, en fait. On se donne un thème, on est sur un support donné, mais on se donne un thème, une trame narrative qui fait que chacun est libre, en fait. Il n'y a pas de contrainte, quoi. C'est vraiment... il y a une contrainte de thème, mais c'est vraiment... Chacun peut aller au bout de son projet, de la façon dont il le souhaite. Enfin, c'est vraiment très...
Vous avez peut-être moins de... vous imposez moins de contraintes qu'un éditeur, un gros éditeur pourrait justement...
On se critique les uns les autres, on se corrige, on est assez, on veut vraiment que ce soit un bel objet et que ça se tienne bien et on est assez exigeant. On essaye des systèmes, on essaye d'inventer un peu un concept de BD avec toujours une trame narrative, quelque chose qui un fil en fait qui tient toute la BD avec la dizaine d'histoires qui se suivent.
Oui, parce qu'on n'a pas expliqué, peut-être que ça mériterait un petit éclaircissement, mais en fait, notre collectif travaille sur des ouvrages qui sont tous écrits de manière collective. Donc en fait, le scénario est écrit à 10 ou 15, selon le nombre qu'on est au moment de la sortie de ce numéro. Souvent, dans la plupart de nos numéros, on est sur la même idée, c'est qu'on a une histoire globale, qui va du début à la fin, et dans cette histoire viennent s'encapsuler 10 à 15 petites histoires qui sont en soi autonomes, mais qui en fait vont servir la trame globale de l'histoire. Et donc chaque histoire autonome est gérée par en général un auteur, effectivement un dessinateur, qui est assez libre du coup de faire ce qu'il veut dès lors que ça sert l'histoire globale.
D'accord.
Voilà, donc notre particularité, ça je pense qu'on ne la retrouve pas dans d'autres maisons d'édition, c'est qu'on peut faire là dans ce collectif ce qu'on cherche à faire, à savoir expérimenter de la construction scénaristique collaborative.
C'est un peu ce qu'on faisait à l'époque au niveau du tac au tac, où les auteurs de bande dessinée, je ne sais pas pour ceux qui se souviennent, qui commençaient un dessin, il y en avait un autre qui continuait.
Une sorte de cadavre exquis.
Oui, voilà, c'est ce que cherchait le mot.
Et vous le faites pareil, justement, il y en a un qui commence, après l'autre prend la suite, c'est de manière chronologique.
Alors là,
non. C'est pensé à la base, en fait. Il y a un thème et il faut que après un auteur fait le lien entre chaque histoire. Donc là en fait par exemple toutes les histoires sont en noir et blanc, on voit dans un style ou alors en bichromie.
Enfin, moi je vois, nous et on voit, mais ceux qui nous écoutent à la radio, ils voient pas grand chose.
Et donc il y a des histoires transversales qui sont en couleur où on retrouve toujours le même personnage qui est une sorte de créateur ou d'artiste en fait.
D'accord. Les auditeurs, c'est de toute beauté.
Ce qu'on vous propose, c'est d'aller carrément sur le site du festival et d'aller consulter cet album. Voilà,